de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie et la Corée du Sud célèbrent le 50e anniversaire des relations diplomatiques. La coutellerie et les produits de cuisine indonésiens attirent le marché mexicain. La Malaisie exhorte les producteurs d'huile de palme à renforcer leur coopération après la réglementation de l'Union européenne. Le gouvernement s'attend à ce que la ZES augmente ses investissements de 61,9 millions de roupies en 2023. Kadin a déclaré que l'Indonésie avait besoin d'investissements dans le transport maritime. Le ministre de l'Investissement est optimiste que l'objectif de 1 400 millions d'IDR sera atteint à condition de stabilité. Le circuit de Mandalika accueille la quatrième série ARRC 2023. Voici le journal complet. L'Indonésie et la Corée du Sud saluent cette année le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en prévoyant d'organiser une série d'événements. Cela a été transmis par l'ambassade de Corée du Sud à Jakarta jeudi. Selon le communiqué, cette année, le 50e anniversaire des relations entre les deux pays a commencé avec la promulgation de l'accord de partenariat de coopération économique globale entre l'Indonésie et la Corée, IKCEPA, le 1er janvier. En outre, l'ambassade de Corée du Sud à Jakarta organisera diverses activités allant des centres culturels à des ateliers académiques tout au long de 2023, tant en Indonésie qu'en Corée du Sud. La coutellerie et les produits de cuisine d'Indonésie ont suscité l'intérêt d'un importateur du Mexique. En participant au 37e Salon de commerce de l'Indonésie, TEI, la société a signé un accord commercial avec l'un des exportateurs indonésiens pour l'expédition de 7 containers de produits de faisel en verre d'une valeur de 124 000 $ américains. C'est ce qu'a déclaré le chef du Centre indonésien de promotion du commerce, ITPC, Usodo Kuncoroyakti, dans sa déclaration jeudi. Le commerce total entre l'Indonésie et le Mexique au cours de la période janvier-novembre 2022 a été enregistré à 1,86 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 30,85% par rapport à la même période de l'année précédente. De cette valeur, les exportations d'Indonésie vers le Mexique se sont élevées à 1,54 milliards de dollars américains. Pendant ce temps, les importations d'Indonésie en provenance du Mexique se sont élevées à 313,8 millions de dollars américains. La Malaisie a rappelé jeudi les pays producteurs d'huile de palme à renforcer leur coopération suite à une nouvelle loi de l'Union européenne visant à réduire l'utilisation de carburant à base d'huile de palme. L'Union européenne étant l'important importateur d'huile de palme. Cependant, la demande devrait chuter de manière significative au cours des 10 prochaines années suite à la directive sur les énergies renouvelables visant à éliminer progressivement le carburant de transport à base de palmiers en 2030, car ils sont réputés liés à la déforestation. Le ministre malais des produits de base, Fadilah Yusuf, a exhorté le Conseil des pays producteurs d'huile de palme, CPOPC, dirigé par l'Indonésie et la Malaisie, à travailler ensemble contre les nouvelles réglementations et à lutter contre les accusations sans fondement portées par l'Union européenne et les États-Unis au sujet de la durabilité de l'huile comestible. Le gouvernement espère que les zones économiques spéciales ZES en Indonésie pourront augmenter la réalisation des investissements en 2023 de 61,9 millions de roupias et créer de nouveaux emplois pour plus de 78 000 personnes. Cela fait partie de la mise en œuvre de l'engagement d'investissement de 214 millions de roupias. C'est ce qu'a déclaré jeudi le ministre coordinateur de l'économie, Erlangga Hartarto, en tant que président du Conseil national de la ZES. Par conséquent, lors de la session du Conseil national de la ZES, le Conseil national de la ZES fournit des instructions pour faciliter la solution des obstacles existants et fournit une assistance dans le processus d'utilisation des installations et des commodités. L'Indonésie a besoin d'investissements dans le secteur du transport maritime, notamment pour rajeunir les navires existants, acheter de nouveaux navires et élargir les marchés internationaux. Cela a été transmis par le président du Comité permanent du transport maritime de la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne, Kadin Nova Y. Mugianto, lors de la conférence de presse BIMPEAGA Maritime 2023 à Jakarta jeudi. Il a déclaré qu'en général, les navires nationaux indonésiens ont plus de 15 ans. Des investissements sont donc nécessaires pour revitaliser les vieux navires. Bien qu'il n'ait pas spécifiquement mentionné les fonds nécessaires pour revitaliser ou acheter de nouveaux navires, Nova expliquait que les fonds nécessaires pour acheter une nouvelle flotte de navires commerciaux s'élevaient à 50 à 100 milliards de roupies par navire. Le ministre de l'Investissement, en tant que chef du Conseil de coordination des investissements, BKPM, Bahlil Hadalia, s'est dit optimiste quant à la réalisation de l'objectif d'investissement de 2023, de 1 400 millions d'IDR à une condition d'une bonne stabilité. Le ministre de l'Investissement en tant que chef du Conseil de coordination des investissements BKPM, Bahlil Hadalia, est optimiste que l'objectif d'investissement 2023 de 1 400 milliards d'IDR peut être atteint à une condition d'une bonne stabilité. Il a déclaré cela lors du séminaire national Actualisation de l'économie nationale dans la réalisation de l'Indonésie d'or 2045, en ligne jeudi. Concernant la stabilité, Bahlil a rappelé que l'Indonésie a besoin d'un leadership fort, ferme et courageux. Il espère également que les futurs dirigeants indonésiens seront non seulement intelligents, mais aussi qu'ils ne seront pas facilement intervenus par n'importe qui et n'importe quel pays. Le circuit international de Pertamina Mandalika a annoncé jeudi qu'il avait officiellement obtenu un créneau pour accueillir la quatrième série de l'événement de course du championnat asiatique de course sur route, ou ARRC 2023, du 11 au 13 août. Le circuit de 4,3 km de long sur la côte de l'île de Lombok, Nusa Tenggara West, a déjà organisé avec succès le championnat du monde MotoGP et World Superbike. La RRC se rendra à Mandalika pour la première fois après avoir couru en Indonésie en 2018 sur le circuit de Sentul. Le directeur de la promotion de Two Wheels Motor Racing, TWMR, Ron Ok, a déclaré jeudi à Jakarta qu'il est heureux de retour en Indonésie. Les coureurs indonésiens dominent les participants au championnat asiatique de course sur route. Ils espèrent que ce partenariat durera sur le long terme, car ils voient sur la scène mondiale des coureurs asiatiques tout du sud de la RRC. Ces étapes, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « OTAN et l'Union européenne renforcent la protection des infrastructures critiques ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, mercredi dernier, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN et l'Union européenne, ont lancé un groupe de travail pour renforcer la protection des infrastructures critiques. C'est en réponse à une attaque contre le gazoduc Nord Stream au milieu du second semestre 2022, ainsi qu'à l'utilisation de l'énergie par la Russie comme arme. Le groupe de travail est composé d'experts de l'OTAN et de l'Union européenne qui travailleront ensemble pour identifier les menaces pesant sur les infrastructures critiques des deux organisations. Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'un entretien avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à Bruxelles, le sabotage du gazoduc russo-allemand dans la mer Baltique en septembre dernier a démontré la nécessité de former un groupe de travail pour faire face à un tel type de menace. En attendant, selon Stoltenberg, le groupe de travail fera partie de la coopération renforcée entre l'OTAN et l'Union européenne. Il a souligné que la résilience et la protection des infrastructures vitales sont une partie importante de l'effort collectif des deux parties. L'OTAN elle-même, en septembre de l'année dernière, avait émis une menace de représailles pour toute attaque contre l'infrastructure importante de ses 30 pays membres. Les menaces sont suite à des allégations selon lesquelles des dommages causés à deux des gazoducs russes Nord Stream 1 et 2 au large des côtes du Danemark et de la Suède dans les eaux internationales de la mer Baltique serait le résultat d'un sabotage. Les responsables occidentaux et russes se pointent du doigt dans l'explosion du Nord Stream. Ils disent que les attaques contre Nord Stream et la coupure du gaz russe depuis le début de la guerre en Ukraine montrent que de nombreux membres de l'Union européenne et de l'OTAN sont tellement dépendants des infrastructures et de l'énergie critique de la Russie. Pendant ce temps, en ce qui concerne le soupçon d'implication russe derrière l'éventuelle attaque contre le gazoduc Nord Stream, Moscou l'a qualifié de stupide. Le ministère russe de la Défense a même publié une déclaration selon laquelle des Nord Stream, bien qu'il n'y ait aucune preuve. Jusqu'à présent, les responsables suédois et danois enquêtant sur l'attaque n'ont nommé aucun suspect. L'affaire de l'explosion du gazoduc Nord Stream a perturbé l'approvisionnement en énergie gazière de l'Europe et a eu un impact sur l'environnement en raison des émissions de méthane dans l'atmosphère. Il est tout naturel que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et l'Union européenne renforcent la protection des infrastructures critiques pour éviter que le même incident ne se reproduise. Bon, chargé tard, c'est tout. Le commentaire.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire aujourd'hui. Le 13 janvier 1982, l'avion Air Florida s'écrase à Washington, D.C. Le 13 janvier, il y a 40 ans, l'avion Air Florida est tombé dans la rivière Potomac, Washington, D.C., aux États-Unis. Le crash d'un Boeing 737-222 avec le code d'enregistrement N62AF a tué 78 personnes. Lancé par History.com, l'incident s'est produit à seulement 30,2 km de la Maison Blanche. L'avion qui a décollé à l'aéroport de Washington en Virginie a percuté le pont de la 14e rue et a heurté 7 véhicules qui s'y trouvaient, jusqu'à ce que finalement l'avion tombe dans le fleuve Potomac dont la surface était recouverte de glace gelée. L'accident a été déclenché par un défaut de maintien de l'altitude. Ainsi, l'avion qui devait arriver à l'aéroport international de Fort Lauderdale, Hollywood, a eu un accident mortel et a fait des morts. Le 13 janvier 2010, tremblement de terre au Salvador. Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,6 a secoué la République El Salvador le 13 janvier 2010. Le tremblement de terre qui s'est produit dans deux pays d'Amérique centrale avait endommagé les lignes électriques et téléphoniques, rendant difficile la diffusion de l'information et la distribution de l'aide. L'aéroport à San Salvador a également été temporairement fermé. Au moins 844 personnes sont mortes, 4723 ont été blessées et plus de 100 000 maisons ont été détruites et plus de 150 000 bâtiments ont été endommagés au Salvador. Le 13 janvier 2012, le navire de croisière Costa Concordia coule et environ 4000 personnes qui voulaient profiter de la beauté de la mer Méditerranée au début de l'année ont dû disparaître après le naufrage du navire de croisière Costa Concordia sur lequel ils voyageaient. Le navire a coulé après avoir heurté un récif sur la côte d'Isola del Giglio en Italie. Cette collision a fait basculer le navire sur le côté et couler lentement. Le Costa Concordia a transporté 3229 passagers et 1023 membres d'équipage. L'évacuation du Costa Concordia a duré plus de 6 heures et 32 personnes sont décédées. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Suara canda tawa dan senyum puas berteman siraman hujan di lapang yang luas tak gentar gelegar petir yang mengaum puas.
Yang penting semua senang sejak kehadiranmu bumi terkekeriang
darahku berdentam di 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 di
dom di di dom jaga 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 di di dom di di dom.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Ces amis de l'antenne, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie ayant pour le titre l'augmentation significative en 2022. Le gouvernement est optimiste, les exportations 2023 augmentent positivement. La valeur du commerce et d'exportation de l'Indonésie en 2022 connaîtra une augmentation significative, à savoir 29,4% avec une valeur d'exportation de 268 milliards d'IDR. L'augmentation des exportations a été soutenue par divers principaux produits de base tels que l'acier, les combustibles fossiles et l'huile de palme brute, CPO. Cela a été transmis par le ministre de la Coordination de l'Économie, Erlang Hartarto, dans un communiqué de presse mercredi 11 janvier au bureau du président Jakarta, après avoir assisté à une réunion limitée sur l'évaluation des réalisations à l'exportation 2022 et des objectifs 2023 dirigés par le président indonésien Joko Widodo Jokowi. Cité sur la page 7cap.go.id, Erlangga a déclaré que le gouvernement prévoit également que la croissance des exportations en 2023 continuera de croître positivement, même si elle est plus lente que l'année dernière. Erlangga a déclaré que le gouvernement prévoit que la valeur des exportations augmentera de 12,8% et la valeur des importations de 14,9%. Erlangga a déclaré qu'au cours de la réunion, le président Jokowi avait demandé que cette croissance positive des exportations soit suivie d'une augmentation des réserves de change. Concernant les pays de destination des exportations, Erlangga a déclaré que la Chine est toujours le pays avec la plus grande part de marché, suivie des États-Unis, de l'Inde, du Japon et de la Malaisie. La valeur des échanges entre les pays membres de l'ASEAN au commerce entre ASEAN est également encore assez élevée. Selon Erlangga, il s'agit d'un potentiel pour l'Indonésie de renforcer sa part de marché dans les pays de l'ASEAN et de confier au président indonésien la présidence de l'ASEAN. Erlangga a déclaré que le président Jokowi avait encouragé la création et la poursuite de marchés non traditionnels, comme en Afrique, en particulier sur la côte à travers le Nigeria et sur la côte ouest à travers le Kenya. À cet égard, la LPEI, ou Institution indonésienne de financement des exportations, sera encouragée à aider les exportations indonésiennes. C'est Zuritar, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine culturel intitulé Plage de Sigile Situbondo. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, pour vous qui aimez le tourisme balnéaire, la ville de Situbondo, à l'est de Java, peut être votre prochaine destination touristique. Situbondo est assez proche de la mer et possède un certain nombre de belles plages. L'un d'eux est la place de Sigile. La place de Sigile est située dans la zone touristique Baluran Merak de Situbondo. L'emplacement est juste à la Labuan Merak, sous-district de Banyu Putih, Situbondo. Cette plage est accessible par voie terrestre en environ 1h30. La plage Sigile est une péninsule ou une terre qui s'avance dans la mer. D'autre part, le littoral s'échancre presque en demi-cercle, puis forme une baie. Ainsi, un beau mélange exotique se crée entre la presqu'île et la baie. Cette plage a un endroit si calme et propre de la pollution. Son charme réside lorsque l'eau de la mer se retire. Car vous verrez une terre de sable blanc en forme de langue. C'est pourquoi on l'appelle Sigile, en langue madjurèse qui signifie langue. Les courants d'eau de mer sur cette plage sont calmes et pas trop profonds. Il convient à la baignade et à tout autre tourisme nautique. Surjetant les récifs coralliens, encore intacts et divers poissons d'ornement rendent le pêchage sous-marin de cette plage populaire auprès des touristes étrangers. Vous pouvez faire de la plongée avec tuba et plongée. Profitez de la beauté sous-marine de cette plage. Autour de cette plage, il y a aussi une vue panoramique sur la forêt de mangroves, qu'il est intéressant d'explorer. Cette attraction touristique est équipée de diverses installations telles que des salles de bain, des restaurants et des parkings. Bon, chers auditeurs, c'est tout, le magazine culturel.
Suasana membuat diriku tergoda. Wajahmu, senyummu, indahmu membekas di sudut jiwa ini. Beradu tatap bola mata kita seakan kau tahu satu anganku dan
warna cinta kasih.
Voice of Indonesia.
Plus tard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur intitulée Jakarta entre dans la liste des 100 meilleures villes du monde 2023. Avec moi Audrey. Chers amis, Jakarta figure dans la liste des 100 meilleures villes du monde 2023 ou dans la version World's Best Cities 2023 de Resonance Consultancy. Une société mondiale de conseil en immobilier, tourisme et développement économique. Jakarta est classée 89e, au-dessus d'un certain nombre d'autres villes, dont Nagoya et Sendai, au Japon, Hanoï, Vietnam, Cologne et Stuttgart, en Allemagne, et Marseille, en France. Resonance Consultancy établit un classement des villes dans le monde en combinant performances statistiques et évaluations qualitatives par les locaux et les immigrés dans 24 domaines regroupés en 6 piliers. Les 6 piliers sont lieux, c'est l'emplacement, produits, infrastructures, programmation, ces programmes ou événements dans une ville. Et personnes, résidents et immigrants. Prospérité, bien-être de ses citoyens et promotion. Comment une ville est promue, par exemple, via les réseaux sociaux. Chers amis, les villes incluses dans cette liste sont généralement des villes situées dans des zones métropolitaines de plus d'un million d'habitants. En ce qui concerne ces piliers, le chiffre pour Jakarta est de 72 pour place, 98 pour produit, 94 pour le programme, 184 pour le peuple, 130 pour la prospérité et 21 pour la promotion. Pendant ce temps, Londres, en Angleterre, est classée première parmi les 100 meilleures villes du monde pour 2023, suivie de Paris en France. À la deuxième place et de New York aux États-Unis à la troisième place. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Thank you.
de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Madura intitulée Taman Bunga Kota Sampang. Chers amis, cette chanson raconte la beauté du jardin de fleurs de la ville de Sampang, qui est l'une des icônes de la ville de Sampang. Le jardin de fleurs de la ville de Sampang est situé dans le coin ouest du cœur de la ville de Sampang. Ce parc est célèbre pour sa beauté et son agencement soigné, ainsi que pour la variété de ses fleurs. Bon, chers auditeurs, voici Annick va chanter une chanson de Madura intitulée Taman Bunga Kota Sampang. Bonne écoute!
Bye.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt!